Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous abordons donc la suite de Regain de Jean Giono. Comme ça, ça a marché. Ils ont acheté la veste, les pantalons, les souliers, deux couvertures bien belles, toutes de laine, un gros panier qui ferme avec une tringle, six mouchoirs, trois larges et trois petits, une longue corne, une pierre à aiguiser, trois couteaux de table, une casserole, un fait-tout. Et puis Ursule s'est mise à rire. Elle a tiré un billet de 10 francs et elle a dit « Tu me le donnes, celui-là ?» Et je te les donne tous. Non, mais celui-là, je le veux pour moi. Tu n'as qu'à le prendre. Elle l'a pris en riant, puis elle a dit « Attends-moi, je vais m'acheter quelque chose. » Il a attendu là, près de la poste. Elle a quitté la foire et elle est descendue dans la rue qui va à la Grand Place. Au bout d'un moment, elle est revenue avec un petit paquet plié dans du papier de soie. « Tiens, » elle a dit. Ça a été une belle pipe toute neuve, en bois de bois et un paquet de tabac. Il en avait les larmes aux yeux. Il n'a su que dire « Toi, toi, comme une menace, comme pour dire toi, si jamais je te tiens. » Elle en est toute gonflée de joie comme un pigeon. Je savais que tu en avais envie, et tu vois, il m'a resté 16 sous. Et c'est vrai, il lui restait 16 sous. Ils auraient pu attendre amoureux. C'est lui qui leur a porté les sacs avec la charrette et il leur a dit « À 6 heures, soyez devant le charron et attendez-moi, on rentrera ensemble. » Mais ils en eurent assez de tout ce bruit, de ces musiques, de tous ces cris, des pétards et de tous ces gens qui boivent et de tous ces marchands qui chantent et de l'orgue qu'on tourne à tour de bras. « Ça me fait un zonzon, » dit Panturle, « qu'à l'endurer je deviendrai fou. »« Oh, et moi ?» dit Ursule. Le vrai, c'est qu'ils ont soif d'être seuls dans leur silence. Ils ont l'habitude des grands champs vides qui vivent lentement à côté d'eux. Là, ils sont cimentés, chair contre chair, à savoir d'avance à quoi l'autre réfléchit, à connaître le mot avant qu'il ait dépassé la bouche, à connaître le mot quand on est encore à le formuler péniblement dans le fond de sa poitrine. Ici, le bruit les a tranchés comme un couteau. Et ils ont eu besoin tout le jour de se toucher du bras ou de la main pour se contenter un peu le cœur. Tu ne sais pas ce qu'on devrait faire si on faisait bien. On partirait tout de suite à pied. Ils sont partis par la route de Saint-Martin, ça fait raccourci. Il y a eu d'abord un grand peuplier qui s'est mis à leur parler. Puis ça a été le ruisseau des sonneries qui les a accompagnés bien poliment en se frottant contre leur route, en sifflotant comme une couleuvre apprivoisée. Puis il y a eu le vent du soir qui les a rejoints, qui a fait un bout de chemin avec eux. Puis il les a laissés pour de la lavande. Puis il est revenu, puis il est reparti avec 3 grosses abeilles. Comme ça. Et ça les a amusés. Panturle porte le sac où sont tous les achats. Ursule, à côté de lui, fait le pas d'homme pour marcher à la cadence, et elle rit. Il est venu alors la nuit, et c'était au moment où, sorti du bois, ils allaient glisser dans le vallon d'Aubignan. Il est venu alors la nuit, la vieille nuit qu'ils connaissent, celle qu'ils aiment, celle qui a des bras tout humides comme une laveuse, celle qui est toute brillante de poussière, celle qui porte la lune. On entend respirer les herbes à des kilomètres loin. Ils sont chez eux. Le silence les pétrit en une même boule de chair. Il y a eu, juste après cette foire, 3 jours, comme on en a souvent au commencement de l'automne, un choléra. Ça a fait les 100 cochonneries, et du vent, et de l'eau, et de l'orage. Le ciel était comme un chaudron. Avec ça, il a fait un froid de glace. Aujourd'hui, il reste un beau brouillard blanc comme du lait. C'est trop mouillé, on ne peut pas sortir, on porterait tout le champ sous le soulier. Panturle est dans la cuisine à faire un manche pour le tournevis. Arsule a vidé l'armoire. Elle a trouvé au grenier une malle pleine de journaux qui date de l'an 7. Avec des ciseaux, elle fait des festons dans le papier pour le mettre sur les planches. Ça protège et puis ça fait joli. Elle est là-haut à la chambre. On l'entend aller et venir. Le brouillard est contre la vitre. On ne voit même pas le village. On entend dans ce brouillard un corbeau qui crie. Et on le voit passer de temps en temps devant la vitre comme une ombre de l'air. À part ça, pas de bruit, sauf le craquement du silence. Panturle s'est mis dans le petit rond de jour gris qui coule de la fenêtre. Il a amenuisé un morceau de branche de chêne et il le fait entrer de force dans le collier du tournevis. Mais le voilà qui, tout d'un coup, lève le nez et qui reste un moment, les mains perdues, à écouter. Puis il se tourne doucement vers la porte. Et en se tournant, il fait attention de poser ses pieds sans bruit sur les dalles. Et le voilà, maintenant. Il fait face à la porte. Il envoie sa main sur le grand couteau de chasseur qui est sur la table. Il bloque le manche épais dans son poing et la lame est dessous comme une feuille d'iris mouillée. Sans bouger la tête, il regarde cette lame. Ça va, elle est là. Bon. Il respire alors silencieusement à grands coups. Et voilà que sur la porte, il y a comme un frôlement. Et voilà qu'on a poussé la porte un peu pour voir. Lui, il a compris ça parce que depuis qu'il a saisi le couteau, il ne lève plus ses yeux de dessus le grand levier de la serrure, le levier qui est retenu par un cran de fer. Et ce levier qui a un peu de jeu a bougé à plat, et il a claqué contre le cran. Panturle regarde encore une fois le couteau. Puis il a regardé le plafond là-haut, dessus. Les pas d'Arsule ne s'entendent plus, mais il descend un petit bourdon qui est une chanson et qu'il connaît bien. Bon, elle est là-haut en train de couper son papier, ça va. Pour monter là-haut, il n'y a que l'escalier. Et l'escalier, il y est devant, lui, Panturle, et son couteau. Ça peut aller. Voilà le levier de la serrure qui doucement se relève, sans bruit. On fait attention, on pousse la porte. Déjà, par l'entrebâil, le brouillard du dehors fume. La porte s'ouvre. C'est un homme qui est sur le seuil. Comme il voit Panturle, il reste la main sur la poignée de la porte. C'est un vieux. C'est pas la maison de Briden, ça, ici ?
C'est,
dit Panturle.
Salut, dit l'homme.
Salut, dit Panturle.
Et je viens un peu pour... voir,
Attends, ça ne te fait rien que j'entre, il fait pas chaud dehors. »
Entre et pousse la porte.
Panturle n'a pas lâché le couteau et regarde l'homme. L'homme fait un peu celui qui tremble avec le frisson en serrant sa veste.
Il fait meilleur ici, oui.
Il fait pas mauvais.
Tu es seul ?
C'est à ce moment-là que l'homme a vu le couteau. Il a fait « Oh !» Puis
« Oui, je suis seul et tu n'as pas besoin de ça, Bryden. Je ne suis pas venu comme tu crois et je ne suis pas de ceux que tu crois. Et ça, c'est un bon couteau et je m'y connais en couteau. Je suis aiguiseur. »
« Ah, c'est ça !» a fait Panturle. Il lui est venu du sourire sous la moustache et il a quitté le couteau.
« Oui, c'est ça !» dit l'homme.
Il l'a fait asseoir près de l'âtre et la soupe cuit sur ses braises sages. Il a écouté. Le bourdon de là-haut, on l'entend à peine, il faut savoir pour l'entendre. Il vaut mieux.
L'homme a regardé lentement les quatre murs, l'un après l'autre, en inspection.
Là, sur le mur de droite, il y a un fichu de femme pendu à un clou. Il l'a vu sur le manteau de la cheminée, il y a des boîtes bien rangées. Les plus grosses devant, les plus petites en queue. D'un côté de la fenêtre, il y a une chaise et sur le dos de la chaise, des bas de femme.
Sur la paille de la chaise, il y a une pelote de coton à repriser, une boule de bois, une carte d'aiguille.
Ça va.
De l'autre côté de la fenêtre, mais ça va comme ça.
Alors voilà, dit l'homme, j'ai demandé et on m'a dit, il est à Aubignan. C'est presque ma route, j'ai fait un détour et je suis venu, ça ne m'allonge pas beaucoup. Un peu, mais tout juste, et puis j'ai quelque chose à te dire.
Dit.
S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous émancelez mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie. C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai. Je vous prie, ne m'inventez pas, vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimé, servante, m'avez voulu ignorante. Forte, vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimé, putain, et couverte de satin. Vous m'avez faite statue, et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte dessous. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui aime ou n'aime pas, celle qui règne ou se débat. C'est Joséphine ou la Dupont, fille de nacre ou de coton. Mais c'est mon cœur ou bien le leur. Celle qui attend sur le port, celle des monuments aux morts, celle qui danse et qui en meurt, fille bitume ou fille fleur. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, soyez comme je vous ai. Vous ai rêvé depuis longtemps, libre et fort comme le vent. Libre aussi, regardez, je suis ainsi. Apprenez-moi, n'ayez pas peur, pour moi, je vous sais par cœur. J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous vos pas, et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre, et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompant découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague, de violence inemployée. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyés. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Et c'est l'ancêtre ou c'est l'enfant, celle qui sait d'où se défend. C'est Gabrielle ou bien Eva, fille d'amour ou de combat. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Celle qui est dans son printemps, celle que personne n'attend. Et c'est la moche ou c'est la belle, fille de brume ou de plein ciel. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi je ne peux plus bouger.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
À nouveau, regain de Jean Giono. Tu n'as pas bougé d'ici, toi ?
Non.
Et tu vas souvent dans la campagne, là, autour ?
Oui.
L'homme se tait. Ça n'est pas encore mûr, ce qu'il veut dire. Il dit : Moi, une fois, j'ai passé par ici et je suis venu à cette maison. Mais il n'y avait personne. Puis cette fois-là aussi, j'ai été embêté tout le temps. Puis cette fois-là aussi, j'ai tiré sur le bord un homme qui se noyait dans le trou des chaussières.
Je sais.
Tu sais ?
Oui. C'était moi.
C'était toi.
Son contentement est tout écrit sur sa figure.
Ah bon ?
Il se détourne, le temps d'effacer cette joie qui se voit trop.
C'était toi alors, ah bon, parce que justement, tu pourras me dire et m'expliquer, et ça ne sera pas pour rien, que je serai venu jusqu'à Aubignane.
Voilà en deux mots, cette fois-là, puisque c'était toi, j'étais avec une femme, tu sais.
Un moment, on n'entend que deux ou trois grosses gouttes de pluie qui viennent taper à la vitre, parce qu'il s'est mis finalement à pleuvoir encore.
Panturle ne répond pas.
J'étais avec une femme, donc. Je vais te dire tout bien comme il faut pour que tu comprennes. C'était une que j'avais ramassée, ça allait ensemble, et puis, de cette nuit-là, elle a disparu comme de la buée. Elle s'est fondue dans l'air du jour.
Toi, je comprends, tu t'es remis comme le frais de la nuit tombait et tu t'es trouvé là tout seul parce que tu ne nous voyais pas. Nous étions couchés sous les saules.
Alors tu es parti, c'est naturel, mais elle,
j'ai pas encore compris.
Alors voilà, je voulais te demander, comme j'ai déjà demandé aux autres des fermes là-bas, des fois en te promenant par là pour chasser ou d'autres, tu ne l'aurais pas rencontrée, ou vive ou morte, enfin de toute façon, n'importe comment, pour savoir. Afin que je sache, enfin.
On entend la pluie sur les vitres.
Il continue tout à la suite.
Parce que je vais te dire, voilà ce qui en est, et le vrai pourquoi.
Cette femme, je te l'ai dit, je l'ai ramassée comme ça, à saute, un jour.
Et c'est pas de la fine fleur, non, pas précisément, mais de la roulure d'un peu partout. Moi, pas vrai, j'étais pas difficile dans mon métier, et puis à mon âge, et puis pour ce que je voulais en faire. Enfin, de toute façon, c'est comme ça. C'est des « Marie, couche-toi là ».
Et puis aussi, pour ce qui est des choses de la maison, ces femmes-là, d'ailleurs, c'est toujours comme ça. Elles vaut pas un pet de lapin. Tiens, moi, j'aime la soupe de haricots secs avec quelques pommes de terre et des pommes d'amour et un petit brin de basilic et un petit rayon d'huile. C'est pas difficile.
Elle l'a jamais réussi, c'est comme ça.
C'est un peu chatte, tu sais, ça se fourre au chaud dans les cendres de tout le monde, ça y roupille, mais pour le travail, ah oui, elle a toujours le temps.
Et puis pour le sentiment, tiens, voilà encore une chose qu'on aime, et ça coûte pas beaucoup les grands merci, et ça montre qu'on est bien élevé, et puis ça se doit. Eh bien, pour ces choses du sentiment, c'est du bois mort ou de la pierre.
Tu peux te mettre là à lui donner tout ce qu'elle veut, lui faire de bonne manière, lui porter ci, lui porter ça, lui aplanir la vie du jour, rien. Comme du bois.
Ça a plus de reconnaissance que la borne des routes.
Tiens, j'ai eu un chien, moi, j'en avais plus de satisfaction.
Tout le long de ça, Panturle s'est dressé. Il est allé à la table. Il a pris sa pipe et son tabac, puis il est revenu s'asseoir. Il a bien bourré sa pipe du pouce et maintenant il l'allume avec un morceau de braise. Il a pris la braise directement dans le feu avec ses doigts. Il la tient sur le tabac et il pompe ses joues. Et enfin la fumée vient et au bout d'un peu, elle est bien épaisse, la braise est devenue noire entre ses doigts.
L'homme après ça attend.
Panturle regarde le bout de sa pipe.
Je te dis tout ça, reprend l'homme, parce que c'est la vraie vérité. S'il y a un mot de trop, que je ne bouge pas d'ici. Des fois, comme ça, dans la vie, ça vous empêche d'être blousé. Parce qu'avec des êtres comme ça, plus on est bon, plus on est vite ratiboisé.
Alors, pas vrai, il vaut mieux qu'on sache.
Parce qu'une fois qu'on est prévenu, il faut qu'on soit en douille pour qu'on se laisse faire, pas vrai ?
Panturle fume. La pluie colle son ventre de limaces contre les vitres.
une gouttière crache du côté de l'écurie. L'homme met la main sur le genou de Panturle. « Collègue, voilà, j'ai tout dit. C'est pour ton bien. Il m'a semblé te voir à la foire. Et on m'a dit que tu sais où elle est, cette femme. » Panturle recule son genou. Il ôte la pipe de sa bouche. « Oui, je le sais, il dit. Elle est ici, avec moi. » Et alors ? Alors, rien. Après tout ce que je t'ai dit ? Oui. Il reste comme ça, à se regarder. Et alors, sur la lèvre de l'homme, il est venu comme un sourire, un petit serpentelet de sourire qui a été coupé en deux par la voix de Panturle. Oui. Après tout ce que tu as dit, parce que ça ne compte pas, et il se cure la gorge, car il en a lui aussi à dire, et pour longtemps, et de vraies vérités aussi, et une fois le gosier net, ça n'est plus la peine. Et voilà. Et puis quand même, il veut écraser en plein le sourire. Qu'est-ce que ça peut me faire ? Et puis on m'a fait deux yeux et deux oreilles et deux bras avec de bonnes mains et je m'en sers seul et je sais regarder l'alentour sans l'aide de personne et je sais ce que je sais. D'abord, si elle est si mauvaise que ça, tu dois bien être content d'être débarrassé. Oui, mais c'était ma femme et je l'ai nourrie pendant 2 ans. Panturle quitte la pipe sur la pierre de l'âtre et il tourne sa chaise et il assoit son grand corps bien en face de l'homme et il commence de se... Je reprends. Panturle quitte la pipe sur la pierre de l'âtre et il tourne sa chaise et il assoit son grand corps bien en face de l'homme et il commence de le regarder dans le droit fil de l'œil, sans cligner. Et il reste comme ça un moment et les braises pouffe dans les cendres parce qu'il pleut le long de la cheminée. Tu l'as nourri pendant 2 ans. C'est possible. Et toi, collègue, tu as un peu pensé que comme ça, elle t'avait donné 2 ans de sa vie à elle. 2 ans. Et durant ces 2 ans-là, tu as un peu pensé qu'elle se figurait sa vie finie et le reste des jours pareil à ceux qu'elle vivait avec toi. Écoute, ne te fâche pas. On est ici pour se parler. On est ici pour se dire, face à face. Parce que les morceaux que je tiens, d'habitude, je ne les lâche que si on me les fait lâcher. Et pour me les faire lâcher, faut être fort. Passons. Donc, tu as un peu pensé à ce que je te dis ? Ça devait pas donner beaucoup de rire d'être avec toi. Tu as combien ? Ne réponds pas, ça se voit. Tu me comprends, à ton avis. C'est payé ? L'homme est là à réfléchir, à faire sonner les mots en lui-même. Et ils ont bon son. Ça va, qu'il dit. Ça va. Je suis payé, tu dis. Et tu dis que je suis vieux. Bon, c'est de ça que je veux te parler, justement. Je suis vieux. Eh bien, c'est à ça surtout que j'ai pensé quand je l'ai prise avec moi. Tu sais pas encore, toi, ce que c'est que d'être vieux. Tu le sauras, je te le souhaite. Alors, pour moi, c'était un peu la compagne, et puis, j'aime mieux te le dire, elle me traînait ma charrette. Et il se tait. Il baisse la tête. Il met sa main droite sur son épaule gauche pour tâter le mal dur qui a planté la bricole et qui rayonne des racines de douleur dans tous ses reins. « Achète-toi un âne. C'est cher. »« Bon, dit Panturle, je ne suis pas de ceux qui prennent dans le bien des autres et j'aime quand on parle en face. Écoute. » À te dire le vrai, je t'attendais un jour ou l'autre. Tu es venu ce jour-d'hui, on va régler ça ce jour-d'hui et ce sera fini, tu vas voir. Il se dresse. Là, tout debout, il est aussi grand que la cheminée. Il n'a qu'à étendre la main et il a la petite boîte où il y a marqué « poivre » dessus. Il s'assoit. Voilà, l'âne, je te le paie. Mais tu me comprends, je te remplace la femme par un âne. Tu me comprends, je te donne de quoi acheter un âne et c'est fini. Il tire de la boîte un billet de 50 francs. Oui, mais le harnais, dit l'autre, et la longe, et tout. Parce qu'il faut que je fasse mettre un brancard à la charrette. Alors, bon, fait Panturle, ça sera donc 60. Et voilà. Des ânes, tu en trouveras à 30 francs, tant que tu voudras. Il a les billets au bout des doigts. Il dit encore une fois, tiens, parce que l'autre hésite et mâche encore quelque chose dessous sa moustache. Tiens. Voilà, nous avons terminé pour ce soir donc la suite de ce roman de Jean Giono Reguin que nous retrouverons et terminerons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.